Bon dia. Benvinguts a aquesta segona sessió del Congrés de Literatura i Corrents Territorials. Avui tenim virtualment el professor Bertran Westphal, que, com podeu veure, no està prou bé, no està prou en forma i no ha pogut venir personalment a fer-nos la seva conferència. Ell no ens pot veure ni ens pot sentir, però li podrem dirigir les preguntes per escrit després, quan hagi acabat la seva intervenció. Bertran Westphal és professor de literatura comparada a la Universitat de Limoges, on dirigeix un equip de recerca, espais humans i interaccions culturals. És el promotor del geocriticisme, que Robert Talí descriu com una nova pràctica del coneixement de l'espai, de la condició de l'espai avui. És autor de nombroses obres sobre geocriticisme, també sobre literatura austríaca, sobre la Mediterrània i teoria de la novel·la. La seva obra és interdisciplinària i ha col·laborat regularment amb dissenyadors, arquitectes i geògrafs. Com a anècdota, us diré que estiueja a Massarrojos, al costat de València. Bé. Li donem la paraula per escrit perquè pugui començar i quan hagi acabat tenim un PowerPoint que ens ha enviat, tenim un text que l'Anna deu haver de fer servir,
no? Com si no el tinguéssim.
Com si no el tinguéssim. I en conseqüència comencem aquesta sessió amb el professor Westphal.
Très bien, alors merci. Donc, chers collègues, chers participants, déjà bonjour à toutes et à tous. Je remercie infiniment Madame Mariangela Villalonga pour son aimable invitation. Et je suis désolé d'avoir eu à déclarer forfait et vous prie de m'en excuser. Une vilaine angine et voilà. Mais enfin bon, la technologie permet de limiter les dégâts et même de donner des conférences à partir de son fauteuil. Donc voilà, encore désolé, allons-y. Donc ce matin, je parlerai de la relation entre territoire. Donc les relations entre territoire et littérature sont aussi anciennes que quoi déjà ? Que la littérature ou que le territoire ? Que l'œuf ou la poule ? Allez savoir. En tout cas, sur l'entrée d'un de ces territoires que l'on s'abstiendrait volontiers de visiter, l'enfer, figure l'un des plus beaux vers que compte l'histoire de la littérature. « Lasciate ogni speranza, voi che entrate ». C'est Dante qui nous le dit, Dante. Il a visité les lieux avant d'en revenir, alors on a envie de le croire. En tout cas, pour le meilleur ou pour le pire, en l'occurrence pour le pire, l'infernal, la littérature et le territoire sont étroitement associés. Pour dire deux mots de ce mariage, qui serait plutôt une suite de liaisons dangereuses, l'envie me prend d'opérer un petit crochet par le Guatemala. Pas par son territoire, que je n'ai pas l'heure de connaître, mais par sa littérature, car la littérature présente cet avantage, elle nous permet de visiter des lieux sans avoir à brandir de passeport. Prenons par exemple Augusto Monterroso, dans la lettre E, 1986, qui est son journal donc des années 83 à 85, il livre à son lecteur des fragments de pensée, des souvenirs et des anecdotes, dont la profondeur est inversement proportionnelle à la longueur des pages. Monterroso est en effet l'un des maîtres de la forme brève. On lui prête, au demeurant, le récit le plus court du monde. « Quando despertò, el dinosaurio todavía estaba allí. » C'est tout. Aussi concis fut-il, ce récit n'a pas manqué de susciter une pléthore de commentaires. Mais revenons à la lettre E. Le 13 octobre 1983, Monterroso consacre une page de son journal à « El mundo del escritor » de José Ferrater Mora, né à moins de 100 km de Gérone. Ce dernier fut contraint d'enseigner dans une université de Pennsylvanie, à défaut de pouvoir le faire dans l'Espagne franquiste, qu'il avait fui en 1947. Selon Ferrater Mora, que cite Monterroso, les écrivains disposent d'un monde très cohérent, muy coherente. donde cada elemento y forma de discurso está al servicio de una estructura unificada. On n'éprouve aucune difficulté à reconnaître à l'arrière-plan l'héritage structuraliste auquel le philosophe catalan semble puiser. Précisant sa pensée, il ajoute au demeurant « El mundo, titulado real, puede ser considerado como un mundo exterior en el cual los seres humanos, aunque son una parte de este mundo, se topan y en cual viven. » Pour Joseph Ferrate Amora, dont le souvenir est activement cultivé à l'université de Gérone, il semble que le monde littéraire et le monde réel sont des instances distinctes, rien de plus normal pour l'époque où il écrivait, encore que pour Monterosso, les choses se présentaient de manière quelque peu différente. Alors, la citation en principe est sur le slide. Existen, lorsque dicen, je précise que je n'ai jamais appris l'espagnol, donc je fais ce que je peux. Existen los que dicen no haber vivido sino la vida de los libros, yo no. He vivido, odiado y amado, gozado y sufrido por mí mismo, y he sido, mi vida ha sido eso, pero a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que siempre lo he hecho como si todo, incluso en las ocasiones de mayor sufrimiento, en el momento mismo de ocurrir, fuera el material de un cuento, de una frase o de una línea. Ignoro si esto es bueno o malo, si me gusta o no. Qu'importe que cet enchevêtrement soit bon ou mauvais, plaisant ou non, l'écriture de Monterosso, elle, a de quoi séduire. Néanmoins, on reste assez loin de l'éventualité d'une liaison dangereuse, ou pas, entre littérature et territoire. Nous sommes dans la première moitié des années 80 et d'un 20e siècle où la littérature n'a eu cesse de prendre ses distances à l'égard du réel. 10 ans après que Monterosso eut refermé son journal, Rodrigo Rey Rosa, un autre écrivain guatémaltèque, publia « Que me maten si » en 1996. Le roman dépeint presque en direct la période qui marqua la sortie du conflit sanglant qui avait coûté la vie à 200 000 personnes dans la grande majorité des paysans mayas. Nous connaissons presque tous le témoignage de Rigoberta Menchú. Au début du roman, Ernesto, le protagoniste, engage une conversation avec sa mère. Si Ernesto est un étudiant en lettres, c'est néanmoins à sa mère que revient la formule la plus frappante. En désaccord avec son fils, elle s'exclame « Cada cabeza es un mundo y hay infinitos mundos ». Ce à quoi Ernesto répond « Así lo ves tú, pero ese quiere decir solamente que así lo ves tú, que así es el mundo que hay dentro de tu cabeza. Dentro de la mía no es así ». Visiblement, tout en s'affrontant, la mère et le fils s'appuient sur une seule et même théorie, celle des mondes possibles, que Thomas Pavel avait formalisée de manière décisive dans « Univers de la fiction » en 1988. On pourra toujours s'interroger sur la vraisemblance de cet échange de répliques en famille. Il n'en demeura pas moins que la théorie des univers de fiction avait introduit un tournant dans la perception des mondes et dans leur représentation en littérature. La fiction obtenait désormais un droit de cité dans l'espace du référent. Elle en illustrait l'infinie ductilité. Elle était censée égrener l'une ou l'autre version parmi une constellation de possibles. Elle traçait un territoire à part, mais un territoire qui était néanmoins en relation avec le monde. Le territoire de la littérature, l'univers de la fiction. La perception réticulaire promue par la représentation fictionnelle, ouvrait une lucarne sur la complexité du monde réel et sur la multiplicité de formes qu'un territoire pouvait adopter. Face à la variabilité que promeuvent la littérature et les autres formes d'expression artistique, l'absurdité d'un territoire que l'on considérait sous un angle monologique saute à l'œil. La représentation qui se voudrait statique serait l'agent le plus certain de sa fossilisation. Durant la décennie qui s'était écoulée entre la rédaction du journal de Monterosso et celle du roman de Rey Rosa, un special turn, l'expression est probablement de Edward Soja, s'était produit. Il avait contribué au dépassement de la vision structuraliste que Jacques Derrida avait résumé en une formule retentissante au détour d'une analyse des confessions de Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a pas de hors-texte. Car, je continue à citer Derrida, l'écrivain écrit dans une langue. Par conséquent, on ne peut suivre qu'une trace et le présent absolu se dérobe, car, dit encore Derrida, ce qui ouvre le sens et le langage, c'est cette écriture comme disparition de la présence naturelle. Le lien avec le référent est hors de portée, voire, dit encore Derrida, exorbitant. De fait, l'affirmation de Derrida était moins générale qu'il n'y paraissait, ce n'est pas toute référence qui était prise en compte. Le rapport au référent géographique n'est jamais mentionné, et la question du contexte historique à peine esquissée. Non, ce qui en 1967 a inquiété Derrida, c'était plutôt la surinterprétation du moi. N'oublions pas que nous sommes dans les confessions de Jean-Jacques Rousseau, donc la transgression, je cite Derrida, vers un signifié psychobiographique des confessions. Je pense que Derrida répondait surtout à Charles Mauron, qui en 1963 avait écrit un essai qui s'appelle « Des métaphores obsédantes au mythe personnel », donc c'était l'introduction à la psychocritique. Plus tard, Thomas Pavel fit preuve d'encore plus de concision que Derrida. Pour lui, cette vision, celle d'un structuralisme pur et dur, qui n'est pas nécessairement celui de Derrida d'ailleurs, lui paraissait relever de la textolâtrie. À vrai dire, Derrida écartait ce reproche, qui lui paraissait injustifié. Il se considérait comme un habitant du monde réel, lui, ainsi que sa philosophie. Aujourd'hui, la situation est quelque peu différente. La théorie littéraire s'est explicitement rapprochée du monde. La littérature a continué à évoluer, tout simplement, et pour le dire sur le ton d'une exemplaire banalité, les temps ont changé. Il en va comme si le réel, pour le moins dans sa dimension spatiale, géographique, territoriale ou déterritoriale, était plus évident, devenu incontournable dans toutes ses manifestations et jamais isolable dans le texte, et jamais isolable du texte, pardon. Aujourd'hui, il est plus difficile, mais pas impossible, d'adopter l'attitude des structuralistes d'il y a quelques décennies. Le texte est toujours encore dans le texte, mais le réel s'y invite aussi, en tout cas dans le regard de celle ou celui qui l'analyse. Je passe à un second point de mon exposé. Du coup, les questions éternelles continuent de surgir. Comme au temps de Sartre, on se demandera « qu'est-ce que la littérature ?» La réponse n'est pas toujours donnée. Comme Sartre, l'on peut être désabusé. Mais il est une autre question. Qu'est-ce qu'un territoire? Il est très difficile d'y répondre, tant le concept est vague. Pourtant, quand bien même sa définition serait imprécise, le territoire se déploie avec précision sur la carte du monde. Parfois, il le fait sur le mode du fantasme, parfois sur le mode du fantasme violent. Bien des guerres sont là pour nous le rappeler. Même le territoire des rêves a sa carte. Il occupe l'Inneres Ausland, en allemand, le pays étranger de l'intérieur que Freud avait jadis balisé, cette géographie intime de ce qui paraît étranger à soi-même, en quelque sorte. Si le territoire existe, c'est parce qu'il est délimité. Au sein de ces limites sont concentrés des facteurs qui font ou feraient, car le tout hypothétique est de rigueur, sa particularité lui conférait une identité et par là même l'amorce d'une stabilisation. Pour d'autres, le territoire n'existe pas et ne l'a jamais fait. Il est toujours entre deux, jamais stable, jamais exclusif de sa propre altérité. Ainsi, Deleuze et Guattari ont-ils évoqué le processus de déterritorialisation qui entraînait ipso facto une re-territorialisation. Pour eux, le territoire est rendu mobile, nomade, car son image cesse d'être fixe, pour peu qu'elle ne l'ait jamais été. Elle est happée par un tourbillon qui n'a cure des pétitions de principe trop fermement établies et trop fermement identitaires qui s'expriment à transformer l'espace ouvert en lieu clos disposant d'un nom, un toponyme. Bien entendu, cette situation est ambivalente. En un sens, elle souligne la dimension locale du territoire tout en pointant risque majeur, celui de fermer sur lui l'horizon au-delà duquel le vaste monde se déploie. Revenons là-dessus. Dans le monde plausible, j'avais écrit, je me cite moi-même, le lieu n'est rien de plus qu'un exemple d'espace parmi d'autres. L'espace est immense, pas mesuré, pas mesurable. Voilà pourquoi toutes les cartes diffèrent que la représentation de l'espace est partielle et bien entendu intrinsèquement partiale. Dans La communauté qui vient, Giorgio Agamben, le grand philosophe italien, a noté avec son habituelle sagacité qu'en allemand, l'exemple est Beispiel. Or, le Beispiel est ce qui se joue à côté. Beispiel. Tandis qu'en grec, il fut paradigma. Paradigma, ce qui se montre à côté. Cette excentration ludique et tape à l'œil est le propre du lieu et partant de l'ensemble de la carte, qui est un recueil de lieux destiné à rester indéfiniment ouvert. Et le doute sur la stabilité des choses et du monde est alors permis, car, je recite Agamben, le lieu propre de l'exemple est toujours à côté de soi-même, dans l'espace vide où se déroule sa vie inqualifiable et inoubliable. Agamben écrit vraiment très très bien. Excusez-moi. La littérature a beaucoup à apporter au monde où se situent ses référents. Le vrai monde, que certains spécialistes de théorie littéraire préféreraient remiser en marge du texte. La littérature a montré que les représentations sont instables, du fait même qu'elles représentent un événement jamais contemporain du discours réel, iconologique, etc., qui en rend compte. Que ce soit dans le registre de la vérisimilitude ou de la fiction, du factuel, ou du factice. Pour leur part, la sociologie, l'anthropologie et d'autres sciences humaines ont établi que toute communauté naît d'un effort d'imagination commune. La part du fantasme y est importante, comme l'a si bien démontré Benedict Anderson dans son désormais classique « Imagine Communities ». En somme, les frontières classiques entre fiction et réalité, n'ont cessé de s'estomper depuis quelque temps, du moins tout au long de l'ère dite postmoderne, dont je serais bien en peine de dire si elle est révolue, en train d'être dépassée, ou au contraire fidèle au poste dans le paysage de l'esthétique et de la société d'aujourd'hui. Aux États-Unis, certains voient le postmoderne comme « deadish », d'autres comme « zombie-like ». D'autres, enfin, ont tenté une spectro-analyse du post-moderne. En quelque sorte, la littérature, mais ce serait valable pour toutes les formes d'art, de l'art contemporain, est à même de donner corps au jeu qui se joue à côté d'elle, au-dessus, en dessous, où vous voulez. Elle est un Beispiel, et elle pointe la nature de Beispiel qui marque la nature profonde du territoire, ce qui véritablement en constitue l'essence. Il ne s'agit cependant pas de changer la littérature de charger la littérature d'une responsabilité qu'elle n'a pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, ne pas charger la littérature d'une responsabilité qu'elle n'a pas. On n'oubliera pas que la littérature est un laboratoire du possible, comme disait Paul Ricoeur, rien de plus, rien de moins, et c'est déjà considérable. Si je devais donner une définition de la littérature, c'est celle-là que je donnerais, juste celle-là, la littérature comme laboratoire du possible. Elle signale les options, mais il ne lui appartient pas de leur octroyer une réalité concrète, matérielle. Elle peut contribuer à évoquer des applications périphériques, issues de sa part de créativité intuitive, mais il ne lui incombe pas de les transférer en dehors de la sphère qu'elle s'attribue. Elle n'a pas à se transformer en sciences humaines comme l'anthropologie ou la sociologie, dès lors que ces dernières sont elles-mêmes engagées dans une mission d'accomplissement concret, ce qui se discute et ce qui ouvre d'ailleurs un autre débat. L'une et l'autre, donc la sociologie et l'anthropologie, sont dans l'hypothèse concrète, voire dans la proposition active et délibérée, mais pas la littérature. Si l'on attribuait ce rôle à la littérature, on sortirait certes de la textolatrie, mais pour s'engouffrer dans l'iconoclasme. On prendrait alors le risque de précipiter la mort de la littérature et de la création artistique. On les étoufferait. Lorsque la littérature ouvre le champ des possibles et que la critique et la théorie littéraire aident à tracer la cartographie des possibles, elles ont beaucoup œuvré en faveur de la communauté. Il appartiendra à celles et ceux qui le souhaitent de délinéer un parcours en s'inspirant de cette carte et de la géographie de l'imaginaire qu'elle véhicule. À chacun son itinéraire à travers le vaste territoire qui n'existe pas. Celui de l'imaginaire, de l'imagination, du fantasme, dont la nature est tantôt explicitée, tantôt dissimulée, sous un vernis de bonnes raisons qui n'en sont pas nécessairement. Troisième point. Parmi les possibles enjeux de la littérature, il en est un qui paraît aller de soi. Offrir de nouvelles métaphores qui aideront les gens à lire le monde. Cependant, alors qu'il est des métaphores essentiellement littéraires, il en est d'autres qui naissent du contact entre disciplines et formes distinctes du savoir. Là encore, la littérature joue un rôle de premier plan, car elle est en mesure de brasser toutes ces métaphores et de les syntoniser. Et en principe, les autres disciplines ne se livrent pas à cet exercice. Un jour, Jean-Philippe Toussaint, donc l'écrivain belge qui vit à Paris, se trouvait à Princeton pour y donner une conférence sur la littérature et le cinéma. Peut-être intimidé par le prestigieux environnement, il éprouvait une certaine gêne avant de se livrer à l'exercice. La conjonction « et » qui unissait littérature et cinéma tout en les dissociant, se révélait rétive à l'étude. Pourtant, dans un café du campus, le hasard fait parfois bien les choses, il accéda à un début de solution. Quelques tables plus loin étaient installées plusieurs universitaires qui discutaient entre eux des conversations de campus. Et l'un d'entre eux, un scientifique, tenta d'expliquer à un collègue une autre coordination particulièrement acrobatique. Et c'est quelque chose de compliqué. Alors, celle qui rapprochait biologie et mathématiques. Biologie et mathématiques, comme littérature et cinéma. Et alors, Toussaint commente, selon lui, on pouvait dire que les différences entre la biologie et les mathématiques étaient les mêmes qu'entre la littérature et le cinéma. Le mathématicien est donc comme l'écrivain, le biologiste comme le cinéaste. Pourquoi ? Alors, sur un slide, en principe, vous avez la citation de Toussaint. Pour le mathématicien ou l'écrivain, le lien avec le monde est ténu. Il travaille dans un univers sans contraintes. Leurs visions sont abstraites. Leurs équations sont immatérielles. Ils avancent lentement, souvent dans le brouillard, solitaires, en proie à l'hésitation et au doute. Alors que les cinéastes et les biologistes ont une activité sociale structurée et rassurante. Ils sont confrontés concrètement à la réalité des choses, à la fois dans la dimension humaine de leur activité, mais également au cœur même de leur travail quotidien, qui est toujours centré sur le vivant. Alors, le parallèle que dresse Toussaint n'est pas exempt de son lot de stéréotypes. Là encore, on pourrait discuter. Je ne suis pas sûr que tout le monde partagerait cette lecture du rapport interdisciplinaire, en effet. Une chose est dite néanmoins. Si les mathématiques sont comme la littérature est comme les mathématiques, et alors pourquoi les lois de celles-ci ne sauraient-elles alimenter les figures développées par celles-là ? Toutes les disciplines recourent à la métaphore, même les plus exactes. Les sciences, qui justement sont dites exact. Je ne suis pas mathématicien, mais en réfléchissant un peu, je devrais pouvoir déceler quelques métaphores dans les rares éléments de mathématiques qui soient à ma portée. Dans l'autre sens, celui qui mène à la littérature et à sa théorie, les exemples sont a priori plus abondants. Je reviendrai aux mathématiques, il y a une métaphore qu'elle cède à la littérature et à sa relation au territoire, dans quelques minutes. Promis, j'y reviens. Dans l'intervalle, permettez-moi un bref excursus, un de plus, à travers d'autres métaphores littéraires susceptibles de dire le territoire. Récemment, j'ai siégé dans un jury de master dans mon université de Limoges. Un brillant étudiant passait au peigne fin tout ce qui relevait de la métaphore de la racine dans quelques œuvres de Toni Morrison, la grande romancière américaine. Il n'avait éprouvé aucune difficulté à remplir son lot de pages sur le sujet. Deleuze, les radicelles, les rhizomes et d'autres figures inspirées de la botanique. Il n'avait d'ailleurs pas que Deleuze dans son escarcelle. Ses réserves d'exemples étaient bien garnies. Il aurait même pu mentionner l'arbre de Porphyre qui a inspiré quelques belles pages à Umberto Eco. Il aurait pu faire état de la frontière aussi. Là, il doit y avoir un slide. Dans certaines langues, la frontière est elle-même héritée du vocabulaire botanique, au même titre que la racine. En allemand, Grenze s'apparente à Granitza. Des langues slaves, or Granitza est le signe tracé sur le sapin qui bordait une propriété, le terminus latin en somme. En suédois, Gran, c'est un épicéa. Là encore, l'interdisciplinarité nous permet de rapprocher le territoire du discours de ses limites. Une autre expérience personnelle convoque aussi bien Deleuze, que je cite décidément souvent et dont le souvenir est omniprésent, autant que l'espace méditerranéen qui nous est si cher à tous, à toutes. Cet été, comme souvent, j'ai visité quelques expositions organisées simultanément au MOVIM. Donc, je vais essayer de prononcer le valencien, vous m'excuserez de ma faible maîtrise de la langue, le Museo Valencia de la Ilustratio y de la Modernitat. L'une d'entre elles était consacrée, excusez-moi, l'une d'entre elles était consacrée à l'œuvre photographique de Xavier Moya, originaire d'Ontinyente, donc dans la Comunidad Valenciana. Donc en principe, là, il y a un slide intitulé Correspondencia amb Mediterránea. L'exposition de Xavier Moya n'était pas sans transmettre une vision éthérée de la mer Méditerranée et de son pourtour. Le photographe insistait beaucoup sur les visages burinés par le soleil, les femmes vêtues de noir, etc. Pour lui, il s'agissait d'una collection de vivencias de un territorio, mi territorio, mediterráneo, en el que estoy como en casa, sea el lugar que sea. D'aucuns rétorqueraient que la Méditerranée n'est pas une vaste maison et qu'elle ne saurait l'être autrement que dans un idéal qui n'est pas de ce monde, hélas. La Méditerranée, c'est un ensemble de maisons, certaines riantes, d'autres moins, ce qui est le lot commun de l'humanité. Les luxueux hôtels de la Costa Brava, ici, ou de la Costa Smeralda, là-bas, sont aussi méditerranéens que les demeures en ruine des rivages de Syrie et de Libye. Le territoire méditerranéen n'est pas destiné à se figer dans une tradition immuable magnifiée par l'art. Ce n'est pas un lieu homogène qui se décline indéfiniment sous le soleil ou cette lumière qui fait l'essence du cliché photographique. Il est toutefois envisageable de le présenter ainsi. Il s'agit alors d'une utopie. C'est très exactement cette dimension que Xavier Moya revendique pour sa série et de la manière la plus explicite. La plus sincère aussi. Voilà ce qu'il dit, donc sur un autre slide. No narra la crónica de l'actualidad, es una utopía. Encore une fois, la littérature comme la photographie n'ont pas le même agenda que la sociologie ou l'anthropologie. Elles n'ont pas davantage la nature du reportage. Le reportage est tout juste l'une de leurs éventuelles déclinaisons. Si quelque chose relève des sciences humaines, c'est le commentaire sur l'art, non l'art lui-même. Comme toute pratique narrative, la photographie et la littérature conservent la faculté de fixer leur programme et d'en tracer les limites en toute liberté. Elles peuvent abonder dans le sens du reportage aussi, aussi bien que de l'utopie. C'est à elles de tracer le périmètre de leur laboratoire, du laboratoire du possible. La deuxième exposition offrait à la vue du spectateur plusieurs tableaux que l'artiste alicantino Jesús Herrera Martínez a peint de mégalopoles latino-américaines, surtout Mexico Distrito Federal et Sao Paulo. Donc là encore, en valencien, El Paisaje al Nuevo Occidente. Jouant de la superposition chronologique, le peintre s'appuyait sur des œuvres connues de l'époque romantique ou post-romantique, où l'exotisme continuait de prévaloir. Hein, donc le premier niveau temporel était constitué de toiles de grands paysagistes romantiques, alors l'incontournable Caspar David Friedrich, mais aussi José María Velasco Gómez, qui œuvrait au Mexique, ou encore sur une fresque de Diego Rivera, pour redessiner le paysage de la ville selon le procédé postmoderne du pastiche. Donc j'ai dans un des slides un exemple de ce procédé qui donne une idée aussi du jeu postmoderne autour du territoire. À gauche, un tableau de Friedrich qui rend compte du naufrage d'un des bateaux de Paris lors d'une expédition à la recherche du passage du Nord-Ouest, qui était une obsession maritime au XIXe siècle, contourner l'Amérique par le Nord. Et à droite, le pastiche du tableau de Friedrich, dans un contexte grave, celui qui évoque le séisme de Mexico de 1985. Les couleurs que vous voyez sur le slide pour ce qui est du tableau de Jesús Herrera Martínez ne sont pas les originales. Ma copie n'est pas très très bonne, mais ça donne au moins une idée. Vous voyez que dépasse l'enseigne de l'hôtel après le tremblement de terre. En fait, c'est quelque chose qui s'est véritablement produit, puisque ce tremblement de terre a été une catastrophe absolue au Mexique. En l'occurrence, le chevauchement des strates historiques renvoie à l'enchevêtrement meurtrier des strates géologiques. Pour Jesús Herrera Martínez, le jeu des métaphores n'en est pas vraiment un. Chez lui, l'intericonicité contribue à introduire une touche d'instabilité dans un territoire que l'on aurait décidément tort de vouloir représenter sous un jour trop optimiste, l'optimisme pouvant résider dans le fait de penser maîtriser une représentation. La troisième œuvre, celle qui m'intéresse le plus, qui est extraordinaire, c'est que les trois expositions du Moving étaient toutes concentrées aux relations de l'art au territoire. Donc la troisième œuvre, mise en évidence, concernait elle aussi les relations mobiles que caractérise tout type d'interaction entre art et territoire. En effet, cette nouvelle exposition était entièrement articulée autour du concept spatial, mais par le biais d'un langage qu'il serait regrettable, surtout autour de la Méditerranée, de cantonner en marge du raisonnement sur le territoire. C'est l'art culinaire dont on ne parle pas très très souvent, à vrai dire, dans les colloques et les congrès littéraires, et ce qui est dommage. Chez des auteurs tels que Manuel Vázquez Montalbán et Andrea Camilleri, dans la production desquels la gastronomie joue un rôle primordial, l'allusion à la cuisine du terroir ou au menu que l'on prend sur une terrasse ouvre une parenthèse. C'est en mangeant bien, on envie toujours les personnages quand on les retrouve devant une table, quelque part dans les livres ou dans les séries télévisées qui reprennent les livres, que les enquêteurs vedettes, dont Pepe Carvalho d'un côté et Salvo Montalbano, qui rend hommage au précédent, trouve un apaisement spirituel et un réconfort psychique et physique. L'interruption de leur repas constitue dès lors une intrusion grave dans ce qu'ils éprouvent de plus intime. Alors, là, il y a un autre slide. Dans Paisajes Transformados, on va donc plus loin. Quique da Costa, l'un des principaux chefs espagnols. Il est né dans la province de Cáceres en 72 et s'est installé adolescent sur la Costa Blanca en 88, et qui est au-delà l'un des penseurs les plus innovants de la cuisine méditerranéenne, livre sa vision d'un territoire qui lui tient particulièrement à cœur, l'aire géographique qui s'étend autour de Denia, dans la province d'Alicante ou Alacant en valencien. Il établit une stricte équivalence entre gastronomie et territoire, et comme sa production est on ne peut plus matérielle, il s'efforce de concrétiser ses métaphores dans l'assiette de ses hôtes. La Méditerranée est là, mais dans ses liens à d'autres territoires aussi. Donc là, il y a un autre slide. L'élément minéral qui caractérise El Mongo, donc la colline escarpée qui surplombe Denia, trouve chez Quique da Costa un surprenant équivalent dans les façades métalliques du Guggenheim de Bilbao. C'est vrai que si l'on place côte à côte les photos de la colline et de la fondation Guggenheim, il y a comme un début d'analogie. Le naturel et l'artefact se rejoignent dans El Paisaje Activado a través de su refracción mineral. Et l'un et l'autre se retrouvent dans le coquillage et le nacre, de cara exterior rugosa y mimética, de cara interior suave y brillante. En 2005, cela lui a inspiré Ostra, ou comment transférer le granit d'El Mongo et le titane du Guggenheim dans une assiette devenue la synthèse d'un territoire rendu à la dimension humaine. Du reste, il y a dans son approche du territoire une constante qui trouve son pendant dans la faune marine des côtes de la Costa Blanca. Rien n'est rectiligne, tout est torsadé, vrillé. Ainsi, la gamme Bajora de Denia, qui pour lui est le symbole premier du territoire qu'il fréquente, es un crustáceo con patrón de crecimiento en espiral. Cette spirale, on la retrouve à la commissure du paysage extérieur et du monde intérieur, car l'un et l'autre se complètent. Ils se rejoignent dans este patrón de forma para plegarse una y otra vez sobre sí mismo sin solución de continuidad. Et revoilà que surgit l'ombre de Deleuze, pour qui d'autres crustacés, les langoustes, chevauchant la ligne de fuite au fond des océans, comme pour mieux défier la fixité des territoires, sont les fragiles héroïnes de notre temps. Un dernier point pour conclure assez rapidement, je pense que pour 3-4 minutes. Dans un vaste jeu de résonance métaphorique, l'obsession de Quique da Costa pour les vrilles et autres torsades, celles qu'incarnent les crustacés des rivages valenciens, me permet de revenir en guise de conclusion au lien que j'avais esquissé tout à l'heure par le truchement du texte de Jean-Philippe Toussaint, donc on y revient finalement, celui de la littérature et des mathématiques. Ici, on entre dans quelque chose d'assez acrobatique. Comment relier logiquement le territoire à la littérature, les mathématiques, la cuisine, par le biais de la topologie, bien sûr, qui de fait régit à la fois la structure en épine de la crevette et une conception idéale du territoire en tant que seuil, un idéal auquel la littérature, entre autres, peut contribuer à donner consistance. Alors, la topologie est quelque chose de très compliqué, c'est au cœur des mathématiques. Personnellement, je suis totalement incapable de comprendre le raisonnement mathématique. La première formule me fait fuir, mais je m'y intéresse un tout petit peu depuis peu. Et je crois que ça vaut la peine de réfléchir à la question, surtout pour des gens qui comprendraient les mathématiques, évidemment. Il m'arrive plus souvent de réfléchir à la frontière, que j'évoquais voici peu dans sa déclinaison botanique. Elle est inhérente à toute approche du territoire, car celui qui n'existe que par la relation qu'il entretient avec sa limite. Que dire de cette limite, justement? Pour les uns, elle est rigide. C'est celle que sanctionnent les lois nationales ou les discours identitaires traditionnalistes. Pour les autres, elle est labile. C'est celle qui participe d'une vision systématiquement ou systémiquement déterritorialisante des lieux. Ça, c'est l'avant-dernier slide, maintenant. Mon questionnement est d'un ordre différent. Y aurait-il une métaphore qui serait apte à exprimer la nature ambivalente de la limite, qui n'est jamais seulement un limes, une formule que j'utilise depuis presque toujours, qui n'est jamais seulement un limes, celui que les Romains opposaient aux peuples extérieurs à leur empire, mais qui est aussi un limen, appelé à être franchi, comme l'est tout seuil. Le limes renvoie une porte, que l'on ouvre ou non. Le limen renvoie un espace de l'entre-deux qui s'ouvre en permanence sur des cultures nouant un contact. Vous l'aurez compris, j'ai un faible pour le limen. Pour finir, je reprends ici quelque chose que j'ai commencé à développer dans la cage des méridiens, un manuscrit, mon dernier, qui, je l'espère, se transformera en livre publié au printemps prochain, si les éditions de Minuit veulent bien. Donc ça va se décider dans pas longtemps. Évoquant l'Europe dans Moyens sans fin, note sur la politique, Giorgio Agamben, autre référence constante pour moi, voit dans le continent européen un espace aterritorial, voire extraterritorial, où l'être est en exode permanent. Il précise sa pensée, et c'est là que la topologie va revenir, donc je cite Agamben, cet espace en exode, ne coïnciderait avec aucun territoire national homogène, ni avec leur somme topographique, mais il agirait sur eux en les trouant et en les articulant topologiquement. Comme dans une bouteille de Lyde, bon, ça j'ai pas très très bien compris comment ça fonctionne, par contre je vois mieux, et comme tout le monde, ce qu'est le ruban de Möbius, donc le deuxième exemple d'Agamben, un ruban de Möbius où externe et interne s'indéterminent. Externe et interne s'indéterminent. Fin de la citation. Dans cet espace qui représente pour lui l'avantage d'être topologiquement déformé, le citoyen aura su reconnaître le réfugié qu'il est lui-même. Fin de la citation d'Agamben de nouveau. Pour Agamben, la topologie instaure une relation d'ouverture et de fermeture au sein du territoire qu'elle définit. Elle fait du territoire un lieu manifestement ouvert à la déterritorialisation. Dès lors, est dit ouvert un espace qui n'entretient aucun rapport avec sa frontière et qui, par conséquent, n'a pas de point commun avec elle. Est donc ouvert dans une acception topologique un espace que le littéraire, et avec lui tout autre qu'un mathématicien, considérait plutôt comme fermé. Le continent européen serait un espace ouvert dont les points constitutifs n'entretiendraient aucune relation avec la frontière et donc a fortiori avec rien qui se déroulerait au-delà. Si ce n'est que cet au-delà, comme pour le ruban de Möbius, espace topologique par excellence, change progressivement de forme pour devenir l'intérieur, car tel est son destin. Soumis à un élan comparable, l'intérieur se retourne vers l'extérieur. Si cela est vrai pour tout territoire, et pour le territoire européen en particulier, c'est sans doute encore plus vrai pour l'espace méditerranéen, à Dénia comme ailleurs. Et cela, Quique da Costa l'a magnifiquement exposé au fond de ses assiettes, dont on rêverait qu'elle soit accessible à toutes celles et à tous ceux qui vivent l'exode et qui testent la nature diasporique des territoires, leur ouverture de l'intérieur, à vrai dire plus effective en littérature et dans les arts que dans le discours politique. Et pour finir, la littérature et les arts sont avant tout les laboratoires du possible. Encore reste-t-il à le réaliser, ce possible, surtout lorsqu'il démontre que le pire n'est pas toujours vrai. Voilà, merci.